Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi. Nous sommes le 12 juillet. Nous viendrons sur la canicule qui s'annonce en fin de semaine. Un drame de l'isolement et du grand âge à la Croix-Rousse. Dans l'actualité également, l'inspection générale des affaires sociales saisie après la mort d'une fillette de 11 mois le mois dernier dans une crèche du groupe People and Baby à Lyon. Dans toutes les communes de France, la période estivale est synonyme de travaux. Lyon n'échappe pas à la règle. 7 millions d'euros en mais pour quels travaux? Les explications de Sylvain Godineau, l'adjoint au patrimoine et à la transition écologique. Visite d'Emmanuel Macron en Isère ce mardi. Les résultats définitifs du bac, incluant le repêchage. L'Université Lyon 3 qui se dote également d'un vice-président étudiant en charge des questions d'égalité et de lutte contre les discriminations. Nous parlerons également de la fête nationale le 14 juillet, le traditionnel feu d'artifice, mais aussi les cérémonies militaires. On en parle dans cette édition avec le général Gilles Daricot, qui n'est autre que le gouverneur militaire de Lyon.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les températures vont donc fortement grimper dans la semaine, avoisinant les 40 degrés dimanche prochain à Lyon, 15 degrés au-dessus des normales saisonnières. Notez que le record absolu de 40,5 degrés établi en 2003 pourrait bien être dépassé. Cet épisode de forte chaleur qui s'étendra à toute la France est le résultat croisé d'un blocage anticyclonique sur les îles britanniques et d'une dépression auprès du Portugal faisant office de véritable pompe à chaleur. Un drame de l'isolement et du grand âge à la Croix-Rousse. Deux frères octogénaires ont été trouvés morts et leur sœur prise en charge dans un état critique. Leur découverte remonte à dimanche soir. Tous trois étaient célibataires et vivaient ensemble. Deux frères de 81 et 89 ans et leur sœur de 86 ans. Ils vivaient au quatrième étage d'un immeuble ancien situé rue du Mail. Le plus âgé des frères s'occupait de ses cadets. C'est une voisine inquiète de ne pas avoir vu l'octogénaire depuis plusieurs jours qui a appelé les secours. Ces derniers ont trouvé les deux frères morts et leur sœur dans un état critique. Elle a été transportée à l'hôpital Édouard Herriot avec un pronostic vital engagé. L'enquête a permis de conclure à des morts naturelles. Une enquête a été ouverte en tout cas pour préciser les circonstances. Le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, a saisi l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, après la mort d'une fillette de 11 mois, le mois dernier, dans une crèche du groupe People and Baby à Lyon. Le bébé avait été empoisonné par une employée. Cette mission est chargée d'apporter rapidement des éclaircissements quant aux facteurs qui, dans cette crèche, dans ce réseau, ou dans le cadre général des modes d'accueil, auraient pu concourir à l'installation de situations de danger ou de maltraitance. Elle doit aussi proposer des solutions pour y remédier. Selon une enquête portant sur 16 000 crèches, près de la moitié d'entre elles déclarent un manque de personnel. 9 000 équivalents temps plein, soit 8% de l'effectif, sont déclarés durablement vacants.
Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
Dans toutes les communes de France, la période estivale est synonyme de travaux et Lyon n'échappe pas à la règle. 7 millions d'euros de travaux engagés. 7 millions pour embellir les équipements publics, écoles, crèches, gymnases. Mais il ne s'agit pas que de travaux esthétiques. Au-delà de l'entretien courant des bâtiments, les 240 chantiers menés cet été visent aussi les enjeux climatiques. En toile de fond, l'objectif de neutralité carbone visé par la ville d'ici 2030. C'est sur le chantier le plus important de l'été que nous avons rencontré Sylvain Godineau, l'adjoint au patrimoine et à la transition écologique. Ce chantier concerne le gymnase Pierre-Audry entre Vaise et Saint-Just.
Ici, on illustre deux priorités de travaux pour la ville. La première priorité, c'est tout ce qui est résorber la dette patrimoniale, donc faire du gros entretien, des travaux de renouvellement importants de sol, de murs, comme on voit ici. Des amiantages, puisqu'il y en avait dans ce gymnase, donc on l'embarque à chaque fois que c'est nécessaire. Et puis le deuxième axe, il est autour de l'enjeu climatique, avec deux sous-axes, économiser l'énergie. Donc ça, ce sera la prochaine phase de travaux qui aura lieu l'été prochain dans ce gymnase. On va refaire l'isolation du plafond. Cet été, on va déjà changer tous les systèmes de lampes pour économiser l'électricité. Et puis en même temps, l'isolation va nous permettre d'adapter nos bâtiments à un climat qui est de plus en plus chaud. On voit qu'on entre à nouveau dans une période caniculaire. Donc on le fait dans ce gymnase, mais on le fait beaucoup plus largement. On le fait actuellement dans nos écoles. Les écoles, c'est 40% de ces 240 chantiers, donc c'est le volume principal de chantiers. Donc voilà, des enjeux à la fois de gros entretien du patrimoine, de résorption de la dette, puisqu'il y a eu un sous-entretien au cours des mandats précédents, et puis d'adaptation au climat.
L'objectif, quand il y aura une période de canicule, comme on va la connaître dans quelques jours, c'est de pouvoir utiliser ces bâtiments dans n'importe quelles conditions.
Alors tout à fait. Bon, là on est dans une période où un certain nombre de nos bâtiments sont fermés. On profite aussi des grandes vacances scolaires pour intervenir. Donc là, on a des entreprises de travaux qui vont intervenir d'entretenir de façon très importante dans nos bâtiments. On profite de cette période estivale pour faire des travaux, mais pour d'autres, ils vont bien sûr rester ouverts. Je pense notamment à certaines de nos piscines, à nos musées, enfin aux gros équipements sportifs et culturels, et puis bien sûr aux bâtiments administratifs. Donc il faut, pour permettre à nos agents de continuer de travailler, notamment, puis à nos usagers d'utiliser les bâtiments, il faut qu'on adapte très rapidement le patrimoine de la ville à ce climat qui chauffe très rapidement.
Comment on fait pour tempérer justement un bâtiment comme ça ?
La première chose qu'on essaye de faire, c'est d'empêcher la chaleur de rentrer dans le bâtiment. Donc pour l'empêcher de rentrer, on a des systèmes de protection solaire devant les fenêtres. Ça peut être des casquettes, des sortes d'avancées qui vont faire de l'ombre, ou ça peut être des stores ou des brises-soleil, donc des systèmes qui empêchent le soleil de passer à travers les vitres quand il fait trop chaud. Et puis aussi, c'est l'isolation, l'isolation des murs. Donc si possible, l'isolation par l'extérieur, ça évite que le mur chauffe. Et quand c'est pas possible, l'isolation par l'intérieur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on fasse sortir la chaleur qui a réussi quand même à rentrer dans le bâtiment. Donc pour ça, c'est renforcer les ventilations. Renforcer les ventilations, ça va être ces brasseurs d'air, des systèmes d'ouverture de fenêtres qui peuvent être automatisés dans certains bâtiments, des systèmes de ventilation mécanique contrôlée. Dans certains équipements, on a des dispositifs qui vont rafraîchir l'air entrant, avec notamment de l'évaporation d'eau qui baisse la température. Et puis, dans les cas les plus extrêmes, on a des bâtiments qui sont climatisés, qui sont notamment les gros équipements culturels, les musées, où on a un contrôle de la température qui va être permanent.
Est-ce que vous arrivez à mesurer votre stratégie justement en termes de zéro carbone ?
Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on est en train de la modéliser pour nos plus gros bâtiments. On a choisi de se concentrer sur les 400 plus gros bâtiments qui font à peu près les trois quarts des surfaces, donc qui sont des bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. Il y a la plupart des écoles, des gros équipements sportifs, des gros équipements culturels, des gros équipements administratifs. Et donc là, oui, on est en train de modéliser les travaux qu'on a déjà programmés, sur lesquels on a fléché des budgets, pour voir de combien ça va nous permettre de réduire les consommations d'énergie, de combien on va baisser nos émissions de gaz à effet de serre, et très probablement de combien il faut renforcer notre stratégie pour atteindre les objectifs de neutralité climatique à 2030. Pour ces équipements plus petits, comme le volume est très important et que les travaux sont programmés au fil de l'eau, on va plutôt suivre la baisse des consommations grâce à notre suivi permanent des consommations d'énergie de la ville. On a un service énergie qui suit en permanence nos factures et qui doit pouvoir constater dans l'usage ces baisses de consommation.
Sylvain Godineau, l'adjoint au patrimoine et à la transition écologique. Des travaux prévus aussi dans 5 mairies d'arrondissement, dans des centres sociaux ou des équipements culturels. Au théâtre de la Croix-Rousse, ce sont des travaux de mise en accessibilité handicap qui sont menés. La visite d'Emmanuel Macron en Isère ce mardi. Le président de la République doit se rendre sur le futur site de l'entreprise ST Microélectronique qui sera situé à Crolle dans la banlieue de Grenoble. L'occasion pour le chef de l'État de dévoiler la stratégie microélectronique de France 2030. La nouvelle usine est financée par un investissement de 5,7 milliards d'euros avec un soutien financier important de l'État français, ce qui permettra de créer environ 1000 emplois supplémentaires sur le site isérois. Les résultats définitifs du bac, incluant le repêchage, le taux de réussite des candidats du Rhône a atteint 90,9% sur l'ensemble des filières. Pour le bac général, 96%, bac technologique 88%, bac pro 81%. Dans tous les cas, c'est une baisse par rapport à juillet 2021. Le pourcentage de réussite est identique à celui de l'ensemble des candidats en France pour le bac général. Il est inférieur de 1,7% pour les séries technologiques et de 1% pour les séries pro. 7 candidats sur 10 obtiennent une mention dans les filières générales, 4 sur 10 dans les filières technologiques et 5 sur 10 pour les inscrits en bac professionnel. L'Université Lyon 3 se dote d'un vice-président étudiant en charge des questions d'égalité et de lutte contre les discriminations. Une victoire pour le syndicat étudiant UNEF qui en avait fait la demande. En avril dernier, la direction de l'université avait saisi la justice après des accusations graves de racisme et de discrimination au sein d'une promotion en histoire. L'UNEF espère maintenant la création d'une cellule permanente et physique de veille et d'écoute qui disposerait des ressources juridiques, sociales et psychologiques pour accompagner les étudiants victimes. Le racisme, le sexisme et l'homophobie ne sont pas des opinions mais des délits, rappelle le syndicat UNEF.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Le 14 juillet, c'est la fête nationale avec le traditionnel feu d'artifice et les cérémonies militaires. Le grand défilé à Paris, mais aussi le rassemblement militaire à Lyon. Et s'il n'y a plus de défilé de véhicules dans le 6e arrondissement, il n'en reste pas moins une cérémonie très attendue par les Lyonnaises et les Lyonnais. Le rendez-vous, c'est Place Bellecour, ancienne place d'armes, qui va ainsi retrouver ses racines. Pour nous en parler, nous avons rencontré le général Gilles Daricot, le gouverneur militaire de Lyon.
Prise d'armes statique, qui contrairement à l'année dernière, se passera sur la place Bellecour et pas sur les alentours de la place Bellecour. Donc on va essayer de tirer profit de la majesté de la place, parce que c'est quand même une très belle place, qui était destinée initialement d'ailleurs à la manœuvre militaire. Donc c'est une forme de retour naturel aux choses. Et puis après, on va essayer, contrairement à l'année dernière aussi, parce qu'on avait tous constaté que c'était un peu étroit, plutôt que de défiler sur les contre-allées, on va défiler dans la diagonale de la place, en ayant imaginé un défilé assez ouvert, puisque nous ferons défiler aussi des jeunes du Service National Universel et de l'EPID, qui est un établissement d'aide à l'insertion professionnelle.
Quelques véhicules, quand même.
Alors, quelques véhicules qui seront disposés en statique, des véhicules des forces armées, des véhicules de la gendarmerie, des véhicules des pompiers, et puis une maquette d'un des hélicoptères, une maquette échelle 1 d'un hélicoptère en service dans l'armée de terre.
Quand on est gouverneur militaire, qu'est-ce qu'on attend du 14 juillet à Lyon ?
Je vais presque vous dire naïvement, moi j'aime le 14 juillet, je suis très français, c'est pour moi un jour de fête et un jour de concorde, comme d'ailleurs nos ancêtres l'ont imaginé. Vous savez que le 14 juillet, c'est le 14 juillet prise de la Bastille, mais c'est aussi dès le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, la nation rassemblée autour du roi. Vous savez, comme moi probablement aussi, que le 14 juillet ne s'est imposé dans les formes qui sont les siennes qu'à la fin du 19e siècle. C'est la Troisième République. Et depuis, je crois que de manière assez originale, parce qu'on n'est pas beaucoup de pays à faire ça, le 14 juillet est vraiment devenu une fête de concorde où les Français voient leurs soldats, les Français, quand c'est organisé comme tel, assistent ou participent à des balles, les Français assistent à des feux d'artifice. Donc l'esprit, c'est vraiment l'esprit de concorde, l'esprit de fête, l'esprit de rassemblement, l'esprit d'unité nationale. Voilà. Donc moi, je veux, et il me plaît, que le 14 juillet soit un jour de fête et de joie.
La crise ukrainienne a-t-elle changé la relation entre les Lyonnais et les militaires ?
Elle l'a changé, elle l'a transformé, elle l'a raffermi, mais je pense que les Lyonnais, comme les Français, mais les Lyonnais encore plus, si j'en crois ce que nous disent les troupes sentinelles qui viennent ici, je crois que les Lyonnais aiment leur armée. Ce qui est certain, c'est que les Lyonnais, comme la plupart des Français d'ailleurs, éprouvent beaucoup de questionnements sur la signification de cette crise, sur la manière dont il va falloir en tirer un certain nombre de conséquences militaires, politiques, géopolitiques. Donc, si j'en crois les contacts qui sont les miens ici ou là, il y a un vrai questionnement des Lyonnais et des Français sur le sens de cette crise.
Qu'est-ce que vous leur apportez comme réponse ?
J'essaie de leur décrypter les choses. Nous avons tous accès à une quantité d'informations assez considérable. Vous pouvez trouver quasi au quotidien sur le tweet la description des opérations militaires. C'est aussi une des caractéristiques des crises modernes. Mais derrière ou sous cette masse d'informations, il faut comprendre les choses. Parce que la grammaire stratégique, la grammaire nucléaire, puisque cette crise a eu une dimension nucléaire à travers les postures politiques du président Poutine. Donc cette grammaire stratégique, cette grammaire nucléaire ont besoin d'éclairage, et nous nous sommes efforcés, à chaque fois que nous avons été sollicités, d'expliquer, de décrire, de déchiffrer à nos amis lyonnais cette crise.
C'est important aussi de le rappeler que c'est important d'investir dans l'armée, et que ce conflit montre finalement que la guerre, elle peut revenir à tout moment.
Donc comme nous le disons dans notre jargon, la guerre n'est pas morte. On a imaginé tous, un peu collectivement, un peu rapidement, peut-être tirer ce qu'on appelle les dividendes de la paix après la chute du mur de Berlin à la fin des années 80 ou début des années 90. Donc globalement, quand vous regardez les courbes de dépenses de défense un peu partout en Europe, même partout en Europe, elles ont plutôt diminué. Et puis en France, depuis une petite dizaine d'années, il y a eu un début de prise de conscience que la guerre était encore possible. La guerre sur le territoire, une forme de guerre sur le territoire national avec les attentats de 2015. Bref, la France a commencé à réinvestir dans la défense à la fin de la dernière décennie. La loi de programmation militaire encore en cours prévoit des efforts significatifs qui ont eu lieu, qui doivent se poursuivre et qui sont rendus encore plus nécessaires par la crise en Ukraine.
Le général Gilles Daricot, prise d'armes prévue donc jeudi à 10h30 sur la place Bellecour. Notez que plusieurs centaines de militaires de Lyon et sa région vont défiler sur les Champs-Élysées, la base aérienne 942 du Mont-Verdun, le 7e régiment du matériel de Lyon, la 27e brigade d'infanterie de montagne de Vars et les écoles militaires de santé de Bron seront présents à Paris ce 14 juillet. Grève à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry ce mercredi, donc demain. Le personnel de l'aéroport a déposé un préavis de grève entre 12h et 14h pour réclamer des embauches destinées à améliorer les conditions de travail dégradées depuis la crise sanitaire. Attention, les pompiers font partie du mouvement. Aucun avion ne pourra décoller ou atterrir pendant cette période. 12h-14h, préviennent les syndicats. Des retards, voire des annulations sont donc à prévoir. 27 lignes seraient concernées. Un mot de sport, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Maxence Cacré avait rempilé pour 3 saisons avec l'Olympique Lyonnais, son club formateur en mai dernier. Il a rajouté une saison supplémentaire à son contrat hier. Le natif de Vénissieux est désormais lié au club lyonnais jusqu'en 2027. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Passez une excellente journée.